tout le monde, c'est Fitz le Brasseur et mon ami
Kevinfu.
On est ici pour notre cinquième podcast avec notre ami
Patrick Sylvestre.
Et Patrick, si vous le connaissez pas, il a parti une nouvelle microbrasserie qui s'appelle
Bière Tamarack.
Puis OK, on va commencer tout de suite par ça vient de où le Bière Tamarack?
Bière Tamarack, en fait, ça, à la base, c'est ça vient de mon côté familial. Quand j'étais petit, c'était le nom de la rue de ma grand-maman.
Pour de vrai?
Donc, ouais. C'est ma grand-mère qui est décédée en l'an 2000, mais la vie continue, puis mes souvenirs d'enfance me rappellent. Tu sais, quand on fait face à l'adversité, qu'on a des problèmes ou quoi que ce soit, on se revoit tout le temps dans l'enfance. Puis ben c'est ça, mon côté créatif m'a amené à aller visiter un peu ce coin de pays-là que j'ai grandi quand j'étais jeune.
C'est dans quel coin?
Hinchinbrook, sur le bord des lignes américaines,
ouais,
sud-ouest de la Montérégie. Là. Mm-hmm. On est vraiment à côté d'Huntingdon. Là. On habitait, là, on allait à pied là, sur les lignes américaines, Chattanooga, New York, dans ce coin-là. Là.
Ouais, ça, je me suis déjà fourré New York dans ce coin-là, Chattanooga.
Ouais, ben c'est ça.
Les lignes, ouais, je m'en allais en se promenant en auto, puis je vois Chattanooga, j'en parlais, puis j'étais comme, ça me semble, c'est pas là, mais je vais y aller quand même.
Ben c'est exactement ça. Là. Ça
fait combien de temps que tu brasses?
Ah, ça fait une dizaine d'années à peu près, là, j'ai commencé à brasser dans mon sous-sol du logement où j'habitais. Je voulais bien faire ça. Je suis allé suivre un cours avec Michel Gauthier pour question d'avoir les bases solides sur la chimie de la bière et tout.
Fait que j'ai... T'as commencé quand même. Quand toi t'as commencé, t'as dit all-in, là.
All-in, ben oui. Ben, tu sais, ouais, je voulais apprendre. T'sais. C'est beau lire. J'ai lu un paquet de livres au fil du temps, mais c'est ça. T'sais, tu veux la base, tu veux. Tu veux être bon dans ce que tu fais. J'avais envie de faire les bonnes bières. Les premières que j'ai faites, c'était dégueulasse.
Fait que tu vois, si tu brasses à la maison et ta bière n'est pas écœurante, faut pas que tu te décourages parce qu'à un moment donné, tu vas y arriver.
ça prend pas... c'est erreur. Tu fais une poutine, elle est bonne au bout de la fin de la poutine. T'achètes pas, mais une bière, quand ça prend, quand t'es en bouteille, là, ça prend comme 3 semaines, 1 mois à faire.
Ah, c'est puis, ça. C'est pas ça que t'es chiant.
Quel genre d'équipement comme... que t'avais quand t'as commencé?
Ah ben, j'ai commencé sur le poêle, là, c'est sûr, avec un chaudron, puis ça a été un peu dégueu. Là. Après, je me suis un peu équipé. J'ai modifié des vieux kegs, là, qu'on a mis un élément électrique dedans. J'ai acheté une pompe, puis un chiller. On faisait tout bien là, quand même. C'est, à la fin, là, tout est en stainless, il n'y a plus rien qui touche au plastique. Puis ça donnait des bonnes bières quand même. Là. C'était fermenté, aucun contrôle de température. À 20 degrés dans le garde-robe.
Ça fait de la job, pas de lumière.
Exactement. On a tout commencé pas mal de même, je pense. Fermenter dans un chaudron de plastique ou une tourie de vitre.
Pas le choix.
Pis, de plus en plus, là, t'as essayé d'améliorer. T'es-tu allé au glycol pack refroidi, toi, en amateur? Ou t'as tombé pro trop vite?
En fait, j'ai acheté une maison. J'ai monté ma salle de brassage au sous-sol. Température 17 degrés plus ou moins tout le temps. J'ai acheté un cellier, fait que je pouvais faire des lagers sans problème. Puis un frigo à bière, fait que je pouvais mettre mes touris là-dedans. Je faisais des refroidissements, des lagering. Donc, c'est ça.
Puis après ça, t'as passé de amateur à ton cours professionnel.
Amateur, cours professionnel, let's go, on se lance. J'avais inscrit une coupe de bière dans des concours, ça s'est bien passé. J'ai gagné des premières places, deuxième, troisième sur la plupart des bières que j'avais faites. Puis là, ben j'ai eu... c'est ça, j'avais eu une entrevue à l'espace public pour être assistant brasseur.
C'est la première place que tu as travaillé, c'est l'espace public.
L'espace public, assistant brasseur, en 2014.
Oh! Je ne sais pas si ça faisait aussi longtemps que ça qu'ils étaient en affaires, les autres,
l'espace
public.
C'était-tu leur preuve? Je pense que j'ai participé à la première ou deuxième anniversaire, ça fait longtemps. Là,
oui.
Oui, fait que c'est vraiment une belle expérience avec le brasseur Simon qui faisait les choses super bien, qui était super consciencieux. Puis, les bonnes pratiques, c'était vraiment important. On travaillait les produits parfaitement. Là. Puis, j'ai fait mes erreurs là évidemment.
ça, c'est tout le temps le
bon. Malheureusement. T'sais,
c'est tout le temps mieux de partir de micro. Quand tu veux partir de micro, va travailler pour quelqu'un. Comme ça, c'est pas toi qui vas payer tes erreurs. Tu vas être payé pour les faire.
Ben, j'aurais aimé ça, pas en faire. Puis, on veut tout le temps bien faire. Là,
impossible.
Ça a été quand même une super belle expérience. Puis après ça, je suis parti travailler. En fait, je suis parti de lui que je travaillais à temps partiel, vraiment, 1 à 2 journées par semaine. Puis je suis tombé aux 3 brasseurs où c'était full-time. Puis là, c'est toi qui formais le staff. Puis, tu sais, j'étais plus en mode apprentissage. Je leur montrais mes connaissances.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est-tu à celui de brasseur que tu travaillais?
J'ai travaillé à celui de brasseur pendant 2 ans et demi.
OK.
trois brasseurs, ça a été une... La constance, là, une école excellente. Tu peux travailler tes brassins. À tous les mois, t'as une analyse de labo qui te donne exactement ce que t'as fait. T'sais. Fait que t'essaies tout le temps de suivre tes constances. Pis,
Ça, c'est cool en maudit, par exemple. Puis t'avais-tu les. Dans ton temps, y'avais-tu les bières de quartier?
J'avais la bière de quartier que j'ai pas eu la chance de travailler. Les seules bières que j'ai touchées aux trois brasseurs, c'est les bières maître brasseur, concours maître brasseur à toutes les années.
OK, ouais.
J'ai fait une double IPA, justement, la première année. Deuxième année, une Pale Ale qui a gagné aussi le concours Maître Brasseur en 2017, je pense.
Ouais, puis 2017.
Ouais, ça m'a donné un voyage au Brésil. C'était vraiment cool, hein? Un voyage brassicole au Brésil.
Wow! J'ai mon chapeau. Moi, c'est bien une affaire quand je voyage. La majorité des voyages qu'on fait, on se concentre un peu sur, dans un autre pays, qu'est-ce qu'il y a comme bière, qu'est-ce qu'on peut aller boire, c'est quoi les nouvelles choses. Et que là, tu t'en vas au Brésil, tu t'en vas carrément dans une autre place.
Je suis content
pour toi. Puis en même temps, j'imagine que tu as pu voir ton apprentissage avec ce que tu as eu pour donner un résultat de produit de plus en plus perfectionné, si on veut, puis savoir qu'est-ce que tu aimes toi aussi, parce que tu as des saveurs de bière qu'ils vont venir te chercher plus que d'autres.
Ça, c'est sûr. Je pense que... Ben, j'aime la bière. Quelqu'un qui aime la bière va aimer tous les types de bières selon la saison, selon ce qu'on a envie de boire, mais oui, tu sais, on a chacun nos spécialités, des trucs qu'on aime plus boire. Les IPA, je pense que ça reste tout le temps, là, n'importe quelle saison.
Puis c'est quoi ta style de bière préféré?
Ben, je dirais que c'est l'IPA, là. C'est le bière...
Ah, t'es un IPA man, ouais, toi! Ouais. Hot head, mais pas hot head.
Hop head.
Ouais, j'aime beaucoup les IPA. IPA fruité, pas trop d'amertume. Ben là, après les trois brasseurs, j'ai décidé... T'sais, en fait, je faisais des feux d'artifice avec des membres de ma famille professionnellement. Je montais des feux, puis c'est ça, je suis un artificier...
Ah ouais?
C'est donc un coup, j'ai jamais...
C'est toi un peu plus tôt, on s'en regarde comme...
Attends, ça faisait exploser faire le service. Non, tu créais les feux d'artifice.
Ben, c'est pas moi qui les créais. Moi, j'arrivais, puis tu sais, je faisais le montage du feu. Ouais, on montait le feu, puis on le faisait sauter, puis on le regardait live dans notre face, on se couchait à terre, puis... Ou pas, là, tu sais, des fois, t'allumes les bombes, puis...
Ouais, c'est ça. Tu cours.
Ouais. Fait que je suis aux trois brasseurs, j'avais ça. La même journée que j'ai décidé, trois brasseurs... J'ai envie d'autre chose, tu sais. J'avais fait le tour, là, 2 ans et demi à faire des bières, fait 300 bières, plus ou moins, pour les trois brasseurs. Fait que je m'en allais dans les feux d'artifice.
300 fois ou 300 types de bières différents?
Non, 300 fois. Ouais,
OK, c'est bon.
J'ai beaucoup de blondes, puis...
Parce que me semblait qu'il n'y avait pas tant de bières que ça.
J'ai brassé 300 fois 4 sortes de bières.
Mais en fait, non, parce qu'aux trois brasseurs, à tous les mois, tu avais une bière différente. Fait que c'était, tu sais, c'était quand même cool, là. Il y avait... C'était des bières bien faites, 100% malt.
Oui, c'est ça. Non, ils prennent du malt 100%.
Pas de l'extrait ou quoi que ce soit. C'était bien fait. Je suis content de cette expérience-là.
Mais t'as travaillé aussi en gros là-bas. C'était quand même assez gros, les systèmes de brassage ou trois brasseurs. Là.
Ouais, c'est 800 litres. Là. C'est très facile là, parce qu'on envoie ça dans Bright Tank. Il n'y a pas de canning, il n'y a pas de bouteille. Y a pas, tu fais la bière, ça fermente, t'as chip dans un Bright Tank, puis t'as serre au bar.
Puis aujourd'hui... T'as ta micro?
Ben, en fait, j'ai juste... ma compagnie de bière. Pour l'instant, j'ai pas ma micro.
C'est une compagnie de bière.
Exactement.
OK. Une compagnie de bière, c'est-tu... Là, j'imagine que t'es brasseur, puis tu fais encore des feux d'artifice, c'est ça?
Ben là, avec la pandémie, non. Là, les feux d'artifice, tout ce qui est événement, moi, ouais.
C'est fini?
Toute ma vie s'est arrêtée.
Fait que t'es maître brasseur pour une compagnie?
Je suis assistant brasseur pour Brasserie Silo à Montréal, où je fais mes bières.
Ah, c'est là que t'es fait tes bières.
Exactement.
Puis c'est les brasses.
C'est moi qui les brasse.
Fait que s'il y a des erreurs dedans, c'est toi qu'on appelle?
Exactement.
Ah, c'est bon, c'est ça, j'aime ça.
Ben, tu sais, ouais, évidemment.
Il a sa compagnie de bières, fait qu'il est assez franc pour dire que c'est pas nécessairement sa micro parce qu'il a pas payé l'investissement que ça prenait au début.
Exact.
Mais par contre, tu brasses tes propres bières.
Je brasse mes propres bières la fin de semaine dès qu'on trouve du temps. Puis que, ouais. Donc, je brasse mes bières, je brasse aussi avec Jean-Philippe, les bières de Silo. C'est moi qui fais ma recette, c'est moi qui commande mes grains, c'est moi qui commande mes levures, c'est moi qui commande tout ce que j'ai besoin pour mettre dans cette bière-là. C'est moi qui la brasse, c'est moi qui la transfère, je la canne.
Fait que la beauté de la chose, c'est que ton produit va être constant parce que dans un sens, c'est toi qui... C'est pas un brasseur différent à chaque fois qui va brasser ta bière.
Exactement. C'est assurément... Ben, tu sais, j'ai aussi... Mon produit va être constant. Mon but de faire de la bière, c'est aussi de créer des choses. Je brasse 2300 litres. Ça dure quand même...
C'est combien?
C'est un bon volume, là. Fait que, tu sais, j'en ai assez longtemps. j'ai envie de créer d'autres choses, puis d'essayer des nouveaux trucs, puis de travailler sur les versions aussi. J'ai la Trap Canana, qui était ma première, mon premier essai. Quand tu fais de la bière, c'est jamais parfait. Fait que,
au début, c'est jamais parfait, puis pensant à Kev, ça explose encore.
Ah ouais, ah ben, je suis en bien
procédé ici. Écoute, je suis quelqu'un de très, très minutieux dans ce qu'il fait. Le nettoyage, tout. Puis là, je suis en train de regarder pour de changer certains équipements que peut-être qu'il y a un problème avec, qui fait que quand la bière passe dedans, ça me cause un problème sur tous mes produits finis.
Ah ouais,
fait okay. Non, j'ai commencé à faire du clean-up, changer des pièces, changer ci, ça. Puis lui, je vois Fitz, qui est beaucoup moins minutieux que moi. Puis lui, tout est correct.
Ben moi, je suis un brasseur. Moi, je brasse en émotion. Tu sais? Je vais faire ma recette, je vais être dans... J'ai l'avantage d'avoir crissement beaucoup de grains chez nous.
Fait que, ouais,
assurément. Là, tu passes, puis tu fais comme, ah oui, c'est vrai, du flocon d'avoine pour une bière au sirop d'érable ou du flocon d'or, ça va donner une meilleure texture. Tu veux faire, ah, on prend ça. T'sais. Fait qu'on change la recette, on prend l'ordinateur, on change la recette. Puis tu sais, je suis capable de... Lui, c'est comme, il va le voir, il va faire, peut-être que ce serait bon, ma version numéro 4 va en avoir dedans. Puis en micro, est-ce que vous buvez en faisant de la bière?
Non, pas tant, non.
Fait que vous êtes vraiment concentré. C'est un ouvrage, en réalité, là. C'est une job, là.
Oui, assurément. Ben oui, ben tu sais, on veut que la bière... Oui, ça nous arrive de goûter des bières.
Oui.
Bière, mais boire, là, tu sais, on n'est pas là pour...
Mais mettons, tu travailles 40 heures semaine, tu n'es pas sous 30 heures semaine.
Ben non, faut pas, là. First, tu travailles mal, là. C'est super propice à faire des erreurs, là, boire sa job.
Fait que quelqu'un qui pense d'ouvrir une microbrasserie pour boire durant la job se trompe un petit peu. Il est mieux de voir ça en amateur chez eux.
Ben, ou il fait ça quand il brasse pas, mais ouais, amateur chez vous, t'es chez vous dans le sol ou dehors ou whatever.
Mais tu sais, c'est un autre... OK, mais on va parler d'un sujet qui...
C'est un autre game, mais en même temps, c'est super dangereux. Là. On travaille avec des boils, tu sais, ça peut nous péter dans la face, des pompes ou pas. Ouais.
Ça fait combien de temps que c'est en marché présentement?
Bière Tamarack, le 24 janvier, on en cannait nos deux premières, qui étaient la fumée de miel et la Tropicanana.
Que t'as emmené aujourd'hui?
Oui, j'ai brassé 4 bières pour l'instant. Puis on a les 4 sont ici.
Fait qu'on va pouvoir goûter à ça. Présentement, on boit la fleur d'Alice.
Fleur d'Alice, qui est une bière. Fleur d'Alice, qui est en honneur à... C'est ma fille qui a trouvé le nom, qui s'appelle Alice. Ma grand-maman s'appelait Alice aussi.
Donc, je pensais que ça avait un lien avec ta grand-maman. Ouais, je venais le dire, là, ça doit avoir un lien avec sa grand-mère. Là.
Oui, mais tu sais, ouais, c'est ça. Ma grand-mère qui était un exemple dans la vie, puis que dans ma vie, en tout cas personnelle, quand j'étais jeune, puis super rassembleuse, puis familiale au bout, qui a élevé plusieurs. Qui était famille d'accueil, qui a élevé plusieurs.
Ça, c'est le fun en maudit, par exemple.
Fait que des belles valeurs, c'est.
Fait que t'as inculpé des belles choses que tu veux représenter dans ta bière.
Exactement. Puis l'esprit rassembleur, ça vient de ça aussi. La fleur d'Alice, c'est en l'honneur de ma fille Alice qui, une journée à Saint-Jean, elle voulait se faire un petit tatou de fleur de lys en face. Ma fille est anglophone, elle va à l'école anglophone. Okay. Puis, elle a dit « Papa, je peux-tu avoir une fleur d'Alice comme ma soeur? » Puis c'est à partir de là, j'ai dit « Ah, je vais faire une bière à la fleur de lys. » Fleur
qui, de lys. D'Alice.
Qui, exactement. Fait que ça a été ma... Je trouvais un beau jeu de mots, puis...
Petite bière, une petite Whitbeer au citron.
Tu peux donner un peu plus de description, un peu?
Whitbeer au citron, citron lime que j'ai... que j'ai zesté, là. J'ai zesté trois caisses de...
Fait que t'as pris du vrai citron pour mettre dans ta bière.
Exactement. Zesté. Okay. Zesté à la fin, j'étais écœuré de zesté. J'ai comme juste pissé ça dans le blender. Deux caisses de citron, deux caisses de lime.
Mais juste du zeste.
Non, j'ai mis tout le jus. Okay. À la fin, comme je te dis, là, j'ai sacré ça dans le blender.
Parce que là, on s'entend, tu faisais pas 23 litres, là, tu faisais 2500 litres, c'est ça?
Exactement, ouais.
Fait que mettons que ça en fait un maudit.
Ça a dû me prendre plus ou moins 12 heures à faire.
Tu sais qu'il y a des esters qui existent, hein?
Ouais, c'est ça, on va dire.
Quand tu te lances, t'as pas nécessairement les budgets pour tout ça. Là,
puis tu mets-tu tous tes houblons aussi tout le temps? Parce que là, ici, t'as marqué, tu prenais du houmelon pour faire ton...
Houmelon, ouais, j'écris pas mal les houblons que j'ai utilisés. C'est le seul que j'ai fait 100% houmelon pour...
Ben c'est cool parce que quelqu'un qui l'aime, tu sais à peu près comment tu as fait, qu'est-ce que tu as utilisé comme ingrédient. Là, je parle comme tu le parles ici, là. Citron, lime, puis ton houblon. Fait que tu sais, quelqu'un peut savoir. Puis vraiment, on le goûte là, que c'est pas.
C'est pas artificiel.
Ouais,
là.
C'est ça, exactement.
En fait, Tamarack, je vais toujours mettre des ingrédients naturels là-dedans. Il n'y a jamais d'extrait. J'ai quelqu'un aussi qui m'a demandé pour la fumée de miel. Est-ce que tu rajoutes l'extrait de fumée pour que ça donne le côté fumé comme ça? On va écouter tantôt. Mais non, c'est hors de question. Là, mais...
T'es bien, toi, tu as vu que ça te représente. Exactement. Puis aussi que ça représente ta grand-mère qui était quelqu'un de chaleureuse et de naturel, j'imagine.
Ben, tu sais, pas tant, là. Ça, je veux que ça représente.
Qu'est-ce que t'aimes?
Tes valeurs.
Aussi, ouais. Ouais, qu'est-ce que t'aimes? Tes valeurs.
Puis tu veux montrer qu'en même temps, quand tu vas faire tes bières-là, ça te représente toi. Puis tu voulais avoir juste la qualité. Puis un produit qui ressort un peu
du lot. Qui se démarque, puis ouais, qui sort du lot, puis que j'aime boire aussi. Hein, je pense que. Je veux pas faire des bières tant pour les autres. Je veux commencer par aimer ce que je fais. Puis après ça, ça va se refléter, puis le monde va.
Mais je pense que c'est ça la différence, parce que soit que tu vas faire. C'est pas le bon terme, là. Tu vas faire ta prostituée pour dire que tu vas faire qu'est-ce que les gens veulent, mais ça te représente pas parce que tu veux avoir de la business.
Je l'ai déjà fait.
En tout cas. Non, mais tu sais, on fait tout le temps. C'est sûr qu'on a des fois des styles de bière qu'on préfère moins qu'on va faire parce qu'on sait que ça pogne. Tu sais, on s'entend là-dessus. Mais tu vas faire la bière qui te représente peut-être un peu moins à ton goût personnel à toi.
Ouais, ben là.
À moins que tu peux pas, là. À moins que tu travailles pour quelqu'un d'autre puis il faut que ça goûte la diacétyl.
Là. Faut que tu fasses ce qu'il te demande. Mais là, ouais. Là, j'ai le choix de faire ce que je veux. Fait que tu sais, je me lance dans les styles de bière qui me tentent, qui sortent un peu de l'ordinaire, tu sais, un Rogue Beer au miel,
c'est pas commun, là.
C'est pas très commun, puis, tu sais, encore là, j'ai vraiment prôné les ingrédients locaux, j'ai appelé une miellerie qui ont cueilli directement le miel des ruches,
ça, c'est
qui
cool.
Est venu me livrer directement chez nous avec son truck personnel, puis, j'ai pitché ça dans la bière dans la même semaine que ça avait été récolté des ruches, là, fait que c'est...
Fait que t'essaies de prendre un peu des ingrédients locaux si possible.
Exactement.
Parce que des citrons, des limes, ça pousse pas au Québec, là.
Ça, non. Dans ça, en fait, c'est une bière 100% malt du Québec, la fleur d'Alice.
OK.
J'ai au moins touché à...
Oh, le malt, c'est important, là.
Exactement. J'ai pris du malt de Innomal.
Fait que là, ça fait pas longtemps que t'es officiellement parti avec tes propres canettes, tes propres recettes. Avant que tu dises que tu es prête à mettre ça sur le marché, toi, ça t'a pris combien de temps de vouloir travailler tes recettes pour être capable de dire « Regarde, c'est beau, là. Moi, je suis heureux de ça. Je veux mettre ça sur le marché. »
Ben, tu sais, ça prend 10 ans. Ça prend le temps que tu cherches à t'améliorer, le temps de créer des recettes, des essayer, de dire « Bon, OK, c'est ce range-là que je veux développer dans
En fin de compte, Kev, là, c'est un. Je vois par où s'en va sa question. Là. Puis Kev, c'est un gars qui est jamais fier de ce qu'il fait. Genre, okay, il faut que ça soit idéal, parfait, à 100%, exactement comme qu'il voulait. C'est-tu possible de mettre une bière en marché tout le temps comme. Tu sais, c'est vraiment ça que tu voulais. Tu m'as dit que tu étais à ton deuxième ou troisième test de celle-là présentement. Fait que c'est des bières qui évoluent quand même dans le.
C'est des bières qui vont évoluer assurément, puis ça va continuer d'évoluer parce qu'un brasseur n'est jamais super satisfait de ce qu'il fait, tu sais. Il y a toujours un petit... C'est facile de dire pour n'importe qui, je prends une bière, puis ah ouais, OK, elle est bonne, tu goûtes pas comme... Qu'est-ce qu'il voulait vraiment aller chercher comme goût? Fait que je pense qu'avec le temps, ça s'améliore, ça peut se développer. J'ai l'intention de faire plusieurs versions de...
Des différentes bières que tu as déjà sur le marché.
Sincèrement, là, je retravaillerai un peu la Tropicana. La fleur d'Alice, je la trouve vraiment parfaite.
Moi, je la trouve vraiment bonne, celle-là.
Ouais.
Mais OK, moi, je suis pas le type NEIPA. Un demi-verre comme ça, c'est parfait pour moi. Là, on va tomber dans mes styles de bière. Ça c'est okay. Parfait. Ça, je pourrais caler ça sans arrêt. Là. La fleur d'Alice, c'est une petite bière d'été. Là. Mm. Mais là, on va tomber dans mes deux styles que j'adore, là, les Rush Beer au miel, ça va être fou. Puis t'as amené une stout aussi?
Yes, Imperial Stout, cacao, assez sucré, une belle touche.
Ça, c'est plus mes... Moi, je suis un gars de mal, tu sais.
Okay.
Puis qu'est-ce que j'aime un peu de ta micro, que je t'écoutais en parler tantôt, tu me disais, ah, moi, je veux vraiment prendre des grains, tu sais, de spécialité, je veux vraiment, tu sais, comme utiliser des produits du terroir, vraiment travailler mes maltes.
Ben celle-là, la Tropicana, tu sais, j'ai rajouté une bonne quantité de purée d'ananas, mais encore là, c'est un produit local. C'est une purée qui a été faite, ouais, clairement. Fait qui est partie de l'ananas, qu'elle a fait une purée avec, exactement, puis c'est ça, on a mis ça dans la bière, puis trois dry up, un avec les ananas quand j'ai installé les ananas, Citra Simcoe.
Mais ça, c'est intéressant par contre, parce que tu parles de dry up, puis je le sais que beaucoup de monde se demande comment tu fais un dry up en microbrasserie. C'est une technique, c'est-tu si compliqué que ça, vous mettez ça dans un keg, puis vous passez du CO2 super fort pour rentrer ça dedans, où tu rouvres le gros dessus, tu droppes ton houblon que tu as droppé, parce que j'imagine que c'est pas 56 grammes que tu as mis là-dedans, là?
Non, c'est plus ou moins 30 kilos, là, mais c'est... On drop ça par le top, puis on purge de CO2 pour pas qu'il y ait d'oxygène qui rentre là-dedans.
Mais c'est pas plus compliqué que ça, là.
Ben, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs techniques.
Non, mais d'habitude, moi, je fais la même chose, c'est quand je brasse en micro, là, je rouvre le top,
ben ouais.
Je drop qu'est-ce que j'ai à dropper, puis je referme. On purge tranquillement pour faire sortir l'oxygène qu'on a pu avoir rentré. Puis...
Mais je suis curieux de savoir les autres techniques que tu parles. Un keg, tu pousses au CO2, tu recircules. Il y a plein de techniques, il y a plein de
goûts. Oh, il y a plein.
Puis, tu sais, je pense que aussi l'esprit collaboratif, ça peut être cool là, d'apprendre des autres brasseries. Ouais. Dans le temps, là, si des brasseries qui sont intéressées à faire des collabos, là, je vais toujours être partant. Tu sais, j'en fais pas avec Silo parce qu'on travaille ensemble. On n'a rien vraiment
à apporter à apprendre, un à l'autre.
On se connaît, on travaille ensemble depuis un an. C'est...
Mais qu'est-ce que le fun que tu dis, justement, c'est qu'une collaboration, souvent, un brasseur va peut-être plus apprendre d'un autre ou vice-versa, ou les deux vont apprendre des nouvelles choses, tu sais. Chaque personne va... Moi, j'aime ça dire ça au monde. Un brasseur fait tout le temps les mêmes erreurs. Fait que toi, tu fais tout le temps tes mêmes erreurs parce que t'es habitué à les faire. Moi, je vais tout le temps faire les mêmes erreurs, même si j'essaie. Quand je trouve l'erreur, je suis comme... Caline que je suis con, tu sais. C'est la 10e bière que je crappe à cause d'une niaiserie que je sais. Kev, il va tout le temps faire la même erreur, des bières qui gâchent. Mais... tu sais, c'est tout le temps la même erreur qu'on va répéter, genre... Fait que c'est le fun, des fois, de travailler avec quelqu'un d'autre qui va peut-être t'aider à améliorer cette erreur-là que tu... Même si tu la connais, là, tu sais, c'est... des fois, c'est une manière de travailler, c'est une manière de,
ben,
de
même faire si les choses. C'est pas une erreur, juste d'améliorer ton procédé.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est ça. C'est toujours le fun, là, de l'esprit collaboratif, puis d'arriver avec un nouveau procédé. Oui, comme tu dis, on a chacun nos façons de faire. On a chacun notre parcours. On a lu différents livres, tu sais.
Puis même si on a pris souvent la même personne d'un cours, on est trois ici qui a des cours de maître brasseur. C'est des maîtres de
brassage.
Des cours de brassage avancé, là. Puis on a pris les trois de la même personne. Puis on pourrait discuter des cours qu'on a eus. Puis je suis sûr qu'on a eu trois cours complètement différents.
Clairement.
Avec c'est... le temps passe, l'approche, les questions. Il y a beaucoup de choses qui changent un peu dans la dynamique. Puis en bout de ligne, après ça, on se fait notre propre école avec notre expérience aussi.
Pas juste ça, on a eu la même technique parce que, tu sais, on s'entend, là, le sucre qui se décompose ou les mâches, ou, tu sais, il explique pareil depuis les mêmes années, puis c'est normal, tu sais, on va pas réinventer la roue, c'est ça, tu sais. Mais t'as compris une partie, j'ai compris une autre sorte de partie.
On a goûté d'autres types de bières aussi, tu sais, on est toujours invité à amener nos propres tests, puis...
Ah, exactement, tu sais.
Tu sais, la bière, c'est quatre ingrédients, mais quatre. Bon, j'en rajoute un peu plus dans mes bières.
Oui, on en rajoute, mais je veux dire, c'est qu'on est.
Ça reste la base et la même depuis des années, depuis des centaines d'années, mais au final, on fait tout différent. Puis, je faisais des soirs à brasser des bières le jeudi soir, moi.
Tu brassais le soir?
Oui, le jeudi soir, il y avait un line-up de monde en file pour s'asseoir, aller manger. Puis, moi, j'étais dans mon cocheron, puis je brassais ma bière.
Dans ton aquarium.
Merci. Je le voyais plus comme un zoo, vraiment.
Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Un gros aquarium, là, tout en vite, avec toutes tes choses.
La lumière en cage qui disait « Ah, je vais prendre une photo. Check, il a bougé. »
Oui, c'est ça. Le brasseur, il brasse.
Il brasse, mais c'est ça. J'étais sale, j'avais du mou partout, puis des grains. Puis,
Mais on va revenir aux trois brasseurs un petit peu, parce que je suis un petit peu intéressé à... Tu sais, je suis allé souvent...
Okay.
Dans plusieurs places, puis on dirait qu'ils sont comme souvent faites pareil. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de technologie dans ces places-là. Ça a l'air d'être vraiment comme... En voulant dire que vous avez une méthodologie de travail, que c'est ça que vous faites. Ça s'en va dans telle place, après ça, ça va dans Bright. Après ça, on pousse. J'ai pas vu de keg là-bas, j'ai pas vu de salle de keg. Ils poussent à travers les Bright Tanks, j'imagine?
Exact, ça part du Bright Tank, ça s'en va direct au bar.
Fait que c'est un pipeline qui part de la Bright, elle s'en va là.
Exactement.
Fait que c'est un gros keg en réalité.
C'est un gros keg, ouais.
Ça fait moins d'ouvrage aussi pour le brasseur, j'imagine?
Beaucoup moins, c'est vraiment facile. C'est pas compliqué de travailler aux trois brasseurs. Tu parles de technologie, ça reste assez modeste. Au final, tu sais, ça fait des années qu'ils ont la même technique. La pratique, tu sais, je pense que je suis parti, il y en avait 21 différents. Donc, tu sais, c'est toute la même technique. Je pense qu'ils amélioraient un peu leur système dans les nouvelles places. Mais tu sais, que tu travailles à Saint-Denis ou que tu travailles...
Ça se ressemble beaucoup,
là. À 30, c'est pareil, là.
Ah, c'est ça.
Mais journée,
ça,
là.
C'est ça que je trouvais cool, parce que, tu sais, ils peuvent tout le temps se dépanner avec un brasseur. Mettons, comme toi, tu t'en vas, puis ils n'ont pas de brasseur. Ils peuvent prendre une autre succursale pour venir brasser, puis il n'est pas désorienté. C'est pas une nouvelle brasserie, comme...
Ouais. Ben, tu commences comme brasseur mobile, donc t'en fais un paquet, tu sais, t'es fait tout.
Ah, c'est comme ça que tu commences?
Ouais, exactement. Ah, c'est cool, ça. Fait, brasseur mobile, tu as ta formation à quelque part, t'es validé, t'es capable de faire de la bière tout seul, fait que là, t'es lancé dans le milieu. Tu te promènes d'une place à l'autre, là, le brasseur qui peut pas rentrer, ou tu sais, un trou ici, puis à un moment donné, tu as une chance d'avoir ton spot.
Un poste exactement. Stable. Ta NE IPA, c'est-tu pas une NE IPA?
Non, c'est une double IPA.
C'est une double IPA que tu as faite.
Exact.
C'est vraiment fou comme la couleur.
Ouais.
C'est-tu tes fruits que tu as rajoutés dedans qui t'a donné une opacité aussi exemplaire?
Ben, je pense que la levure a aussi beaucoup de. T'sais, sincèrement, si on avait pris notre temps de la couler et qu'on avait tout laissé la levure dans le fond, ça aurait donné une bière claire avec pratiquement les mêmes goûts, mais t'sais, la levure, elle a été choisie pour donner un côté juicy à cette bière-là. Donc, c'est bon de la shaker un peu et de donner un petit shake.
Mais j'ai aimé ça quand t'as mis la bière dans le frigo. Le monde l'a pas vu à la caméra, mais la bière était en envers dans le frigo pour être sûr de bien mélanger tout au complet. Fait que tu sais, des fois, en homebrew, si vous voulez avoir une bière plus opaque, mais nécessairement, le fait de le mettre au froid fait un cold crash qui prend tous les sédiments puis les met au fond de la bouteille, tu sais. Fait que la brasser un petit peu avant de l'ouvrir ou, tu sais, comme tranquillement, là, je parle pas de...
En même temps, c'est quelque chose qu'on peut pas faire dans un bar. On se mettra pas à shaker cake, tu sais.
Non, mais ça passe plus vite dans un bar, par contre.
Ça passe plus vite, c'est vrai. T'sais, moi, ça, cette bière-là a été cannée le 22 janvier, donc ça fait déjà 2 mois, presque.
Puis c'est super bon.
Ah, c'est pas oxydé, d'oxygène là-dedans. C'est vraiment
pas oxydé là, comme bière. Là,
ça peut durer un an sans problème, surtout à ce taux d'alcool-là.
Oui, c'est combien, celle-là?
C'est 8%.
Fait que tu as des bières assez haut pourcentage d'alcool, j'imagine?
Oui, présentement, non,
là, dans tes 3
pour l'instant, je suis à 4,5, 6, 8, 10. Fait que
t'as une grosse gamme.
Mais tu sais, en hiver, t'as besoin de réconfort, fait froid. Pis,
exactement.
Tu sais, j'ai cette gamme-là, Imperial Stout, ça va durer un peu plus longtemps dans le temps. Moi, sincèrement, là, ma passion pour la bière, là, je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais ça part d'un festival de bière à Chambly. Je venais d'arrêter de fumer, mais mon palais venait de se développer. Ça faisait une couple de semaines, j'avais arrêté de fumer, puis je suis allé à Chambly boire des bières, déguster des bières. Mois de septembre, fait chaud, gros soleil. Puis c'est une bière, je me rappelle pas la brasserie que j'ai goûté cette bière-là, mais c'est un Imperial Stout vieilli en fût de Bourbon que j'ai goûté, puis j'ai fait « wow ». Puis c'est vraiment ce qui m'a jeté à terre, puis qui m'a dit « OK, t'es capable de faire ça. Si lui est capable de le faire, si tout le monde qui sont ici sont capables de le faire, t'es capable. » Puis j'ai pas voulu le faire à moitié, tu sais, je me suis lancé là-dedans. Puis...
Mais t'as-tu vu une grosse différence dans ton palais une fois que t'as arrêté de fumer?
Clairement.
Pour avoir plus, c'était jour et nuit.
Clairement, clairement.
Le message est passé à tout le monde, là. Ouais, vous aimez la bière, mais c'est un handicap si vous fumez en même temps pour avoir toutes les saveurs.
Mais c'est encore drôle parce que le meilleur dégustateur de whisky, si je ne me trompe pas, au monde, il fume le cigare. C'est encore pire que la bière.
Ouais, ça développe d'autres notes. Hein? C'est, ouais. Chaque buveur de bière va goûter la bière différemment. Même quand ça fait une couple de jours que tu n'as pas pris une bière, la bière goûte différent de.
Moi, souvent, quand j'aime dire au monde. On fait des cours de dégustation de bière, puis je suis pas le seul qui en fait des cours de faux goût ou de goût de bière, tu sais, faites par des vrais fioles, faites en industrie, tu sais, pour donner le vrai goût qu'on veut goûter, diacétyl, whatever lequel. J'aime refaire mes cours parce que j'aime ça, l'expliquer, mais ça me remet mon palais tout le temps à jour.
Ouais.
Tu sais, quand c'est un faux goût que ça fait longtemps que tu n'as pas goûté, tu le sais que c'est pas normal dans une bière. Mais de trouver le point, puis pourquoi c'est là, des fois, c'est très, très, très difficile. Tandis que quand je donne des cours, le mot de pandémie, on peut pas en donner, mais quand on donne des cours réguliers, un client m'amène une bière, tu sais, souvent, les clients vont m'amener de la bière qui ont scrappé, tu sais, pour avoir comment récupérer, puis tout. J'ai aussi de la bonne bière, je le sais. Ça l'aide vraiment, tu sais, de faire des cours de dégustation réguliers pour être capable...
De faux goût, hein? Quelqu'un m'avait dit ça, fais des tests de faux goût pour te pratiquer, puis tout. Moi, je sais pas, tant qu'à faire des tests de bière que j'aime pas boire, tu sais.
Fait qu'on est rendu présentement. Moi, j'ai sorti de la bière fumée au miel.
Oui, il y avait hâte de ça.
Comment t'as trouvé ça, celle-là?
Moi, je trouve que l'ananas ressort énormément. Mm-hmm. Moi, j'aime beaucoup les ananas frais, le goût. Il y a beaucoup de longueur en bouche. L'ananas me reste en bouche. Okay. Mais vraiment dans le fond du palais et en gorge. Ben, c'est moi, mais l'amertume est présente, mais balancée. En voulant dire que oui, je peux dire que c'est une IPA. Mais je pourrais jamais faire comme « Oh, c'est intense ». Non, je trouve qu'il y a une suivi entre l'amertume puis une longueur de fruits à la fin.
Pour moi, c'est la même chose parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui trippe IPA, puis surtout des IPA, des grosses IPA américaines que on dirait que la langue te tape en deux puis tu goûtes plus rien après.
Ouais.
Je trouve que c'est tellement bien balancé comme type de bière que, tu sais, pour une double IPA, c'est fou. Une bière fumée, t'as différents styles de bière fumée. Exact. T'as des bières fumées qui sont extrêmement fumées, puis tu en as d'autres qui sont équilibrées. Puis dans cette bière-là, t'as la parfaite équilibre entre le miel, le fumé, puis le malt.
C'est drôle parce que mon premier sniff, c'est pas le fumé qui m'est revenu, c'est le miel. Puis la deuxième, le fumé est arrivé. En voulant dire, il est présent, mais il est pas prédominant.
Tu sais, il y a du monde qui boivent ça, puis qui ont pas eu d'autres expériences avec le fumé, puis pour eux, c'est too much. Là. Le fumé est trop présent. C'est leur type de bière.
Oui, mais
quelqu'un qui a déjà goûté une bière fumée comme un peu trop intense, mettons, il y a un paquet de styles comme ça. Moi aussi, d'ailleurs, le fumé n'était pas mon premier but de faire cette bière-là. Au début, je voulais faire une bière au miel, brune au miel. Puis le fumé est venu d'une mentalité un peu des mielleries, en fait, des apiculteurs qui, pour pouvoir aller travailler dans leur ruche, vont aller fumer la ruche pour... endormir les abeilles un peu pour pouvoir aller récolter le miel. Là. C'est un peu du braconnage. Okay,
Mais non, c'est vraiment cool, par exemple, que tu as représenté comment on va chercher du miel.
D'apiculteur.
Oui, exactement, dans une bière. C'est pas trop intense comme des bières que j'ai déjà faites fumer.
On pourrait faire un petit test de rétro-olfaction. Là. On prend une gorgée, on se bouche le nez, là, puis on goûte pas le fumé du tout. Là. Fait que c'est vraiment le nez, c'est le nez qui développe la fumée.
Ouais, réellement.
Un peu comme la coriandre, je me rappelle dans mes cours goût et analyse sensorielle.
Ouais, ouais.
Là, c'était vraiment exactement ça. C'est ça, rétro-olfaction, là, on goûte le fumé qui revient dans le nez.
Mais sinon, c'est la flaveur. Là.
Mais quand même, elle reste équilibrée au niveau du goût. Moi, j'en ai fait quelques fumées. Puis c'est drôle parce que les gens qui avaient déjà un préjugé ou qui est parti, je l'ai appelé la bière au bacon. Le côté fumé, l'association que les gens se sont fait, c'est comme... c'est vrai, c'est super bon, mais très, très bien fait. Je pourrais boire ça toute la journée, pas trop pesant. Puis ça fait juste partie encore là d'un équilibre côté fumé. Le miel, il est là, mais plus au nez qu'en bouche. Le miel est au nez, le fumé est plus dans la flaveur.
Tu me parlais tantôt de combien ça prend de temps à créer une bière. Ben celle-là, ça a été vraiment recherche et développement, goûter des bières, voir vraiment où je vais aller au niveau fumé. Est-ce que je vais mettre 100% de malt fumé? C'est du Beechwood de Wireman. Mais j'aurais pu mettre 100% fumé, mais
dans ce malt-là, oui,
l'équilibre.
C'est très équilibré. C'est pas le principe que tu prendrais un verre puis OK, j'en prendrais pas un autre. En voulant dire, je pourrais en prendre un autre sans aucun problème parce que c'est pas trop pesant et c'est pas trop intense pour dire que tu goûtes plus rien après.
C'est vrai.
Et que la balance est juste là pour dire... Moi, je vais en prendre un autre sans aucun problème parce que tu as ça en bouche. Puis, je la vois vraiment à corps mais bière. C'est très,
c'est
très
prononcé.
C'est
vraiment ma plus belle bière à corps mais bière. Les autres, c'est plus des bières, le fun à boire.
Mm-hmm.
Moi, je me pose plein de questions. Fait que ça va être sur la conception de ta bière, des canettes, des choses comme ça.
OK.
Tes logos, ton inspiration, t'as engagé quelqu'un.
Avec une amie de longue date, ça fait une dizaine d'années qu'on s'était pas vu, en fait, quand je l'ai recontacté. Elle qui est designer graphique, qui me... J'ai eu envie de travailler avec elle, je l'aimais beaucoup, puis finalement, c'est ça. C'est elle qui m'a créé ça. Ça a été difficile, la communication en temps de COVID. On s'est pas rencontrés, on s'est seulement parlé au téléphone un peu.
C'est ta partie en plein milieu de COVID, toi, là.
Clairement, ouais. J'ai acheté mes fermenteurs en juillet, c'est ça. On est parti, là, le temps de monter tout ça là, en plein COVID.
Puis ça, c'est vos deux idées ensemble. As-tu donné des idées? As-tu donné des modèles?
Ben, c'est ça. Tamarack, en fait, on parle des racines qui sont très présentes dans le logo.
Ouais, c'est ça.
Mon but, c'était de trouver quelque chose d'éclectique, de naturel. La nature, le naturel, c'est très important. Les arbres, c'est t'sais, la forêt...
Puis je trouve ça drôle que ton logo, il est vraiment tout petit en haut dos de la canette.
Ouais.
Puis t'as le gros nom au-dessus. Toi, qu'est-ce que tu veux représenter? Oui, tes cannes, ils ont toutes le même style, qu'est-ce qui est vraiment cool, parce qu'on est capable de différencier assez facilement qu'on va arriver à notre dépanneur spécialisé préféré. Tu es disponible dans combien de points de vente?
Pour l'instant, je suis distribué par Transbrew. Transbrew, okay. qui on a 96 points de vente. J'ai pas des gros volumes, hein. C'est 2300 litres, ça peut paraître gros, mais au final, je pourrais pas avoir 400 points de vente. Je pourrais, tu sais, je fais 200 caisses de bière de chaque sorte.
Puis tu
96 points de vente, s'il y a un roulement, on se concentre, on est pas mal local, malgré que tu peux retrouver nos bières à Rimouski. Puis,
ah, ça, c'est intéressant.
Il y a quelques points de vente un peu à Saint-Anne-des-Monts. Je suis quand même fier de ça. Là. C'est une région que j'adore. Puis,
Petit logo en arrière de la canette. Fait que si vous voulez chercher, j'imagine que on cherche le look en premier.
Ouais, on cherche le côté... Côté montagne, là, on est un peu dans le relief des montagnes, puis quelque chose d'assez accrocheur. Là. C'est toutes des couleurs pastels.
Puis en gros, le nom de la bière, fait que tu voulais que le monde sache qu'est-ce qu'il achète.
Exact. Qu'est-ce qu'il achète, quel style de bière. Sinon, j'ai ajouté une petite description que je voulais complémenter sur mon site internet si vous êtes un peu plus intéressé.
Ton site internet est?
BièreTamarac.com, Facebook, Instagram, BièreTamarac.com, BièreTamarac. Vous allez trouver plusieurs détails là-dessus. Mes photos, tout. J'aime la bière. Là, je suis comme un peu en train de travailler un peu plus en marketing dans tout ça.
Mais c'est ça. Ça va évoluer. Partir de micro, c'est pas juste savoir brasser puis savoir faire des bons produits parce que là, on le sait que tu es capable. Maintenant, c'est de savoir comment le vendre.
Marketer, clairement. C'est pas ma force, je l'avoue, mais...
Mais tu vas apprendre.
On va apprendre, on n'a pas le choix. J'aime ça, en fait. J'aime vraiment ça, travailler à ça.
Mais tu sais, t'es un passionné, ça se voit quand tu parles de tes produits, quand tu parles de la bière, de où t'es parti. L'expérience que t'as eue est reflétée dans tes bières que tu présentes.
L'expérience, là, c'est jamais perdu. Partout où tu passes, là, l'expérience, c'est le point fort de tout. Là. Je pense que j'ai gardé plusieurs expériences dans chaque
place
où j'ai travaillé. Puis,
ben, c'est le côté positif et constructif parce que peu importe qu'est-ce que tu as ramené, ça te donne ton produit présent pour dire que maintenant, c'est
exactement. Ton dans un an, on va être ailleurs. Je vais avoir évolué dans cette année-là. Puis, quand tu aimes ce que tu fais, c'est juste en évolution.
Oui, c'est ça,
tu
exactement.
Tu retournes jamais en arrière. Hein,
tu as trouvé ta compagnie pour distribuer aussi.
Oui, qui était aussi, en fait, qui était déjà en contrat pour la compagnie pour laquelle je travaille. Puis ça a été un bon add-on.
Il y en a trois au Québec. Il y en a deux plus gros, puis il y en a une nouvelle qui vient d'apparaître dans l'est du Québec. Fait que t'en as pas vraiment le choix si tu veux faire affaire avec des distributeurs. Pas 500,
ce qui est cool là-dedans, c'est que je fais un peu de vente de téléphone pour savoir comment ça se passe dans les milieux. Mais tout est quand même bien géré, tout est distribué, tout est vendu sans que j'aie à y toucher.
Mais par contre, tu me disais justement, tu appelais à une boutique qui est proche de chez moi, qui est au coin de chez moi, avec la bière à boire, que tu as pris la peine de les appeler pour mettre tes produits à cette place-là, savoir comment ça se passe, c'est ça?
Oui, exact. Oui, c'est sûr. J'essaie d'avoir quand même une proximité avec les clients, savoir comment nos produits vont, comment la client... Tu sais, nos produits, c'est... Nos clients, c'est le business-to-business, c'est celui qui le vend. Après ça, lui, il le vend au consommateur. C'est qui va racheter le produit?
C'est important pour toi de savoir les comebacks que tu as eus à partir de ton point de distribution, les commentaires positifs ou négatifs pour améliorer ta
brosse. J'essaie de regarder les on-tap aussi un peu.
On-tap? Hey, ça, c'est quelque chose que j'ai décroché, man!
Je suis d'accord.
On-tap, là!
On dirait que c'était ma seule source de vérification de, bon, t'aimes-tu ma bière ou pas?
Ça pourrait être tellement un bon point pour les microbrasseries si le monde prendrait le soin de parler.
On a chacun nos goûts différents, puis c'est... Chaque personne donne son appréhension d'une bière. Chose. Mais quand tu regardes ça, là... Tu sais, moi, je le regarde parce que je regarde tous les détails de chaque personne, okay, qu'est-ce que tu as ressenti là-dedans, puis de sa note. Au général, là, la note est sensiblement correcte.
Il y a beaucoup de monde sur ce type de plateforme-là qui ne prennent pas le temps d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont goûté.
C'est vrai. Mais il y en a plusieurs qui donnent leurs commentaires, puis c'est super constructif, puis je me retrouve beaucoup là-dedans aussi.
Mais ça, j'aime ça, par exemple. Si c'est constructif, que ce soit bon ou mauvais pour moi... C'est pas grave.
Si tu te fies à une table pour choisir une bière au dépanneur, je suis pas d'accord.
Ouais.
Mais c'est, ça reste une plateforme de gens qui goûtent à la bière puis qui donnent leur opinion. Fait que c'est
80 % du monde.
Ou qui donnent une note, mettons.
Ouais, c'est ça.
Ben, tu sais, ben, au final, tu sais, une note, c'est super
mais moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je dis souvent au monde, c'est que tu as le droit d'aimer ou de pas aimer une bière. Puis ça, il n'y a personne, même le brasseur, même toi, je suis sûr que je te dirais, j'aime pas cette bière-là. Tu me dirais, OK, mais.
Qu'est-ce que tu as bu avant aussi? Qu'est-ce que tu as mangé?
Mais pourquoi tu l'aimes pas?
Ouais.
Tu sais, moi, je trouve que ce qui est important d'expliquer à un brasseur ou d'envoyer un courriel à un brasseur, j'aime pas ta bière parce que ça goûte ça, ça, pis ça. Si ton but, c'est que ça goûte ça, ça, pis ça, tu vas faire comme, bah, ben, il l'aime. Il l'aime pas, mais je veux dire, j'ai réussi ma job. Tu comprends?
Ouais.
Si je te dis, j'aime pas ta bière parce que ça goûte le beurre, ça goûte la moufette, pis ça goûte. Mais là, tu vas dire, wow! OK, c'est pas normal. C'est pas ça que c'était supposé de goûter. Est-ce que tu goûtes toutes tes bières?
Si je goûte toutes mes bières, ben oui, sincèrement.
C'est... Fait que quand tu fais un lot de canettes, tu vas goûter une de tes canettes dans ton lot pour savoir si elle est correcte?
Ah, puis j'en bois régulièrement, là. C'est ma bière à maison que j'aime boire, là. C'est...
Fait
que... On fait ça aussi pour... Tu sais, je fais des styles que j'aime boire parce que, justement, j'en ramène à la maison. Puis...
OK, mais autre question. Est-ce que tu brasses encore maison?
Non!
Tu brasses plus maison?
Ben non, j'ai plus le temps. La vie familiale, le setup aussi, là, ouais.
Fait qu'en gros, quand tu vas brasser ta bière... T'as-tu un système pilote pour le tester en premier pour voir ce que ça va donner? Ou on va y aller tout de suite 250, 2400 litres, 2500 litres?
Ben, 20 BBL, là, plus ou moins.
Tu avec 20 BBL d'une shot, puis on crée la bière pour un 20 BBL en premier?
C'est mon test.
Fait que ton test, c'est un 20 BBL.
Mais tu sais, c'est des tests calculés. On s'entend que c'est des tests calculés.
J'imagine que c'est comme n'importe qui fait une bière en premier.
C'est beaucoup d'argent à perdre si tu manques ta shot, là.
Ouais. Ben ça peut arriver, là. Je le souhaite pas, mais...
Fait que toi, tu conçois tes recettes tout de suite pour le gros système.
Ouais.
Ta brasse, ta fermente, ta goutte en canne, j'imagine. Ta goutte...
La goutte tout le long du procédé, ouais, ouais. Là,
quand on a l'expérience que t'as, on sait comment ça va virer pas mal plus que quelqu'un qui commence à faire la bière.
Ça arrive de flusher des bières, mais tu sais, faut savoir aussi à quel moment la flusher, puis...
Oui, peut-être pas parce qu'elle était pas bonne après deux semaines de fermentation.
Tu l'as mis dans les cannes, puis là, ça te coûte le prix de la canne, le coût de le temps, mm-hmm. le canning qui coûte extrêmement, c'est pas donné. Puis...
Ben, c'est ça qu'on va revenir aux cannes, parce qu'on parlait de ton logo, on a parlé de ton design, on parlait de ta canne. Est-ce que vous avez une canneuse ou est-ce que tu
travailles? On travaille avec Can Management. Fait...
Ah, c'est mon ami Martin Milano qui vient t'aider à canner.
Oui, Martin, on l'a vu quelques fois.
Ouais.
Ils ont une équipe qui grossit tout le temps, Can Management. C'est un bon système, ils arrivent, ils savent ce qu'ils font, puis ça prend pas de place dans l'entrepôt. Ça...
Le coût est quand même correct, j'imagine, pour parce que tes aides à canner. Mais eux, ils arrivent avec l'expertise aussi.
Ouais,
c'est fait ça. Que ça l'aide.
Ouais.
Là.
Ouais.
Puis pour tes cannes, autre question. Je vois que c'est pas le des wraps.
Oui, ça, c'est Art Print qui font le printing.
Fait que tout est printé dessus ta canne.
Ouais.
C'est une question de respecter les poids pour les régies ou c'est une question vraiment d'avoir une canne complète parce que souvent, les wraps vont juste faire une partie de la canne.
Les étiquettes vont faire la moitié. Un wrap, ouais. C'est quand même complet. Sauf que les nouvelles lois qui ont été reportées là, avec Recyc ouais. Québec... qu'on n'avait plus le droit de faire ça. Là. Je pense que ça a été reporté à...
Oui, ça a été reporté à 4e
Je ne sais pas
là.
Exactement quand, mais de partir à la base avec des cannes printées puis être sûr que...
Fait que toutes tes cannes sont printées, ouais. C'est prêt. Fait que quand tu marques 10% d'alcool, tu reçois combien de cannes d'achat?
Ben pour la bâche, là, 2300 litres, plus ou moins 4-5 000.
Fait que tu reçois 4-5 000 cannes avec marqué 10% d'alcool dessus. Tu as le droit à combien d'erreurs d'après la régie?
1% d'alcool là, à ce niveau-là. C'est quand même... c'est beaucoup. Là. On s'entend qu'un un densimètre plateau, là, pour arriver avec 1% d'erreur, là, c'est presque impossible.
Fait que faut que tu sois sur la coche quand tu brasses?
Oui, ben ça, c'est... Ouais, c'est important.
Fait qu'à la maison, quand on dit de prendre des densités puis de calculer comme du monde puis calculer le taux d'efficacité de ta levure avec l'atténuation...
Le densimètre spécifique gravity là, est beaucoup plus facile d'avoir ta marge d'erreur de
ouais.
0.5% ou parce que tu sais que tu tombes de 1.024 à 1.012, il y a une méchante différence là. Tandis qu'un thermomètre plateau, que tu sois à 6 plateaux ou à 4 ou à 2 plateaux, t'as comme un range de vraiment pas beaucoup d'alcool.
Non, c'est ça exactement.
Fait que c'est un peu plus facile de travailler avec ces outils-là.
Puis c'est plus précis aussi, c'est évidemment. Précis, là, on a trois. Toi, tu utilises trois plateaux, trois gammes de plateaux, j'imagine.
Le 16-20. Ouais, c'est ça. On l'utilise pas tant, là. On est dans
à 10%, tu dois pas mal l'utiliser.
je me suis servi du réfractomètre.
Réfracto!
Pour le OG, là, ouais, pour qu'on aille chercher.
La bonne chose.
La première densité, ouais, exact. Santé. Crépuscule, on s'entend qu'on est en fin de soirée, on a envie de
prendre
ça relax, puis boire une petite bière qui va nous réchauffer, boire dessert, bière dessert.
Ça, c'est le bord du feu, là. Ça doit être mon gars.
Sincèrement, là, ça m'est arrivé quelques fois pour bien goûter. 9-10 heures le matin, je me claquais
une petite 10%
pour goûter, tu sais, c'est...
T'as rien en bouche, t'as aucun rien pour te... pour te tromper dans tes saveurs.
Puis fait que on finit le podcast en finissant notre Kevin d'amour, que des bières à haut pourcentage d'alcool, à vitesse qu'il boit. Vous pouvez voir présentement ses petits yeux qui étaient beaucoup plus élevés au début du podcast présentement.
J'apprécie chaque gorgée, mais je suis pas mal moins énergétique quand j'ai commencé.
Petite Imperial Stout, Imperial pour haut pourcentage d'alcool, j'imagine?
Exact, oui.
Parce qu'une stout, ça va plus tourner aux alentours de 4,5 à 5% d'alcool normalement. Fait qu'Impérial, on monte du double.
On est dans le double.
On est dans le double.
D'alcool,
10%.
Bien ronde, bien licoreuse. On goûte bien les arômes rôtis, café, chocolat. J'ai rajouté du cacao dans l'empattage.
C'était ma question. Dans l'empattage?
Oui.
Puis tu prends du cacao.
Avec les maltes. De cacao.
Là. En poudre de cacao, tout simplement.
Ouais.
Écoute, je peux vous confirmer que le côté liquoreux de la bière, je peux pas la caler. Autant que je voudrais bien, chaque gorgée, vous allez l'apprécier, puis c'est quelque chose que vous allez déguster à long terme. Et c'est pour ça que c'est le fun avec la dernière bière, elle peut durer longtemps.
Question côté mâche, tu utilises des températures plus élevées pour faire ce type de bière-là?
Absolument. Là, on va jouer avec des températures d'empattage maximales là, avant de développer de la bière sans alcool. Là, c'est vraiment...
OK, fait que t'es vraiment haut dans la plage, là.
Ben ouais, 69-70,
là. Hi, t'es pas loin de ton mash-out.
Exact, ouais, c'est ça.
OK.
Je voulais aller chercher de la rondeur du corps sans nécessairement saper une fermentation ou quoi que ce soit.
Mais ça, je te lève ton chapeau parce que tu m'avais dit que tu rajoutais justement à 10%, tu rajoutes aucun dextrose ou bien de partie de sucre et que... Ça prend énormément de grains pour avoir ça, pour avoir un 10% d'alcool. Le sucre, les sucres moins complexes sont pas là. Donc, si tu as plus de sucre résiduel, tu n'as pas le choix de, comme tu dis, d'empâter à 69-70. Mais ça prend énormément de grains pour être capable d'avoir un 10%.
Oui, ouais, j'ai foulé ça au max. Puis
c'est assez impressionnant quand même là, quand on dit que 10%. Mâché aussi haut que ça, 100% malt.
Ouais, c'est un peu dans mes principes de base. Hein. Je ne veux pas être le seul qui fait ça. Je connais pas les autres exemples, mais...
Ce type de bière-là, ceux qui sont habitués de brasser à la maison, quand tu vas faire ton sparge, ça va prendre une éternité. Il y a tellement de grains compactés dedans, ça va prendre beaucoup plus de temps qu'une base comme que ta wheat beer que tu as faite.
À l'inverse, tout ce que je vais aller chercher va déjà me donner le premier mash-out là, va me donner tellement de sucre concentré. Fait qu'après, le rinçage est pratiquement le même. Là, je dirais pas...
Okay.
Non, c'est juste qu'il pourrait faire une two-penny, il pourrait faire une stout après.
Bref, clairement, là, j'ai fini avec du 6-7 plateaux, je pense.
Ouais, c'est ça. Tu pourrais faire une stout normale avec
après le rinçage. Au lieu de, tu sais, juste scraper les grains.
Ouais, c'est ça,
les
exactement.
Vaches, j'adore ça.
C'est un bon système de récupération. Tu jettes rien. C'est donné à du monde. Fait que c'est vraiment cool, par exemple, parce que ça donne aussi des nutriments aux vaches pour les aider à grandir et à se nourrir.
Fait ouais, au lieu de jeter... En santé, là, au lieu de leur donner n'importe quel autre type de grain, là, c'est...
Puis, aucun alcool parce que c'est non fermenté.
Assurément.
Fait qu'il n'y a pas de danger pour eux. Puis... Depuis tantôt, mais on boit dans tes verres, parce que d'habitude, le monde est habitué de nous voir boire dans les verres du brasseur. Tes verres sont-ils disponibles aussi dans les boutiques spécialisées où tu vends ta bière?
En fait, qui m'en a acheté? Il y a Peluzzo Beaubien qui a mes verres.
Avec Peluzzo?
Peluzzo, si vous voulez mes verres, je dois lui en rester. Sinon, j'en ai disponible s'il y a des...
À la boutique? As-tu une boutique en ligne?
J'ai pas de boutique en ligne, j'ai pas de boutique sur place. Je suis vraiment... Je fais affaire avec les dépanneurs spécialisés, les épiceries. Okay. mes points de vente. Sinon, j'ai pour l'instant aucune boutique qui vend mes bières.
Fait que quelqu'un qui voudrait avoir un chandail de ta brasserie ou un verre de ta brasserie, je ne sais pas s'il y a des chandails, j'ai dit ça comme ça.
Pas encore, mais
ça va arriver, j'imagine. Ils peuvent demander à la boutique de te commander des verres, puis ça va te faire plaisir d'envoyer des verres.
Exactement, oui. Assurément. J'en ai disponible.
Parce que tu as d'autres bières qui s'en viennent, hein?
Il y a d'autres bières qui s'en viennent, assurément. Là, j'ai pas envie de stagner avec 4 bières. Je veux toujours évoluer et toujours essayer de faire des nouveaux trucs selon la saison.
J'espère que vous avez apprécié le podcast. Si c'est le cas, faites-nous le savoir. Partagez en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner. Tu peux aller voir sur le site de tamarack.com, www.tamarack.com, pour avoir les points de vente. Aussi disponible par le distributeur
Transbrew.
Fait que Transbrew, vous pouvez aller voir. Vous allez voir ces points de vente, où est-ce qu'ils sont situés. Ce serait le fun de l'encourager et de goûter les merveilleuses bières qu'on a eu la chance de goûter avec notre ami Patrick. D'ici là, on se voit dans le prochain podcast. Kev, t'es-tu trop saoul pour parler d'autres choses?
Hey, merci les boys, c'est super agréable. Hein?
Ciao tout le monde.
Au plaisir tout le monde.
Cheers, man.
Santé.